émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, au micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, chemin de vie entre ombre et lumière. Avec Henriette Rosary. Action et connaissance sont inséparables en art. L'expérience devient existence pour accoucher nos âmes. Non pas un art pour soi, sans l'autre on ne peut rien. Ici, les images convergent, s'imbriquent, se dansent, se construisent dans la pensée. La vision du monde et son interprétation singulière se déclinent dans une cosmogonie, une galaxie composée de symphonies, de particules picturales nous invite dans un cheminement de nourriture céleste, de cycles de particules colorées en mouvement. Transition du visible et de l'invisible. Henriette peint le passage, la topographie de l'ailleurs, un éclat aérien de ce monde qui forme un tout. Du concret à l'abstrait, un sujet émerge. Car l'art n'est pas une science exacte. Il est irrationnel et s'inscrit dans l'intuition et la déraison. Ces quelques phrases sont tirées de la préface d'Olivier Bernex, peintre et écrivain provençal, préface du livre de Henriette Rosary, notre invitée ce soir. Bonsoir Henriette et bienvenue à ce micro de Judaïsme Pluriel. Merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir Laurent, je suis très très heureuse de, que vous m'offriez cet espace-temps car j'ai besoin effectivement de transmettre. C'est en fait pour moi très très important. D'essayer de faire comprendre le cheminement d'un artiste à partir de la réalité des choses.
Alors, votre livre magnifique a pour titre « Chemin de vie entre ombre et lumière ». Pourriez-vous nous commenter ce titre ?
Alors, « Chemin de vie », bien entendu, je l'ai mis au pluriel. Parce que pour moi, l'individu, chaque personne a plusieurs chemins et surtout plusieurs rencontres qui vont faire qu'il va pouvoir se construire au fur et à mesure de ces rencontres. J'appelle ça d'ailleurs très souvent les synchronicités, ces opportunités qui font que à un certain moment, la rencontre va pouvoir influer sur le cours de notre vie et changer ce cours de vie, d'où l'histoire de chemin de vie à plusieurs. Quant à la lumière, pour moi, il lui fallait une majuscule, parce que pour moi, c'est synonyme d'espoir. Et donc, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a forcément qu'une. C'est celle qui va nous tirer vers l'utopie nécessaire pour progresser.
La lumière, il n'y en a qu'une, mais ombre, vous l'avez mis au pluriel.
Alors, pourquoi ombre ? Eh bien, parce qu'on se débat
pour pouvoir, au fur et à mesure, voir apparaître la lumière. C'est un jeu constant entre notre inconscient. Notre inconscient, et si on se réfère à Jung, on sait très bien qu'il y a plusieurs ombres, et notamment plusieurs ombres au tableau.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. De ton nom, tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce...
Vous écoutez l'émission Judaïsme pluriel et je vous rappelle que ce soir, je reçois Henriette Rosary, artiste peintre et écrivain. Henriette, vous avez choisi ce premier morceau. Pourquoi ?
Alors, ce premier morceau, c'est presque la synthèse de ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, à savoir cette symbiose et cette rencontre entre les mots, la musique des mots, et puis tous ces arts qui m'ont permis de me construire et de construire ce que je suis de nos jours.
Bien, alors, vous êtes artiste peintre, comme je viens de le dire, écrivain aussi, et votre livre est une vraie symphonie de peinture en concordance avec vos textes. D'ailleurs, vous en lirez quelques-uns au cours de cette émission. Vous êtes totalement imprégné par les arts. Alors, parlez-nous de votre histoire de vie.
Alors, mon histoire de vie, dans un premier temps, mon enfance, elle a été bercée par la musique. C'est le moment à Marseille où l'opéra était ouvert constamment. Il y avait sans arrêt des programmes extraordinaires. Et très tôt, toute petite, j'ai fréquenté l'opéra avec mes parents qui étaient passionnés. J'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui était passionné de chant et qui chantait à l'Alcazar.
Ah bon ?
Et puis ma mère était une couturière chevronnée et qui, elle aussi, était aussi dans la création.
Elle faisait danser les aiguilles peut-être ?
Voilà, certainement les aiguilles et puis les tissus qu'elle choisissait toujours avec beaucoup de goût. Ce qui fait que j'ai été totalement imprégnée de tous ces apports. J'ai eu très tôt la chance aussi de pratiquer le piano, le chant choral, l'orgue. Là aussi, ça m'a énormément apporté. Et puis, mais j'étais toujours dans les pas des créateurs. Je ne créais pas véritablement moi-même. Mmh. Mais bon, on se nourrit aussi des pas des anciens.
Certainement.
Donc, forcément, j'ai eu la chance de baigner complètement dans ces créations. Ensuite, bien très tôt, j'ai pris la direction d'un établissement scolaire. Et là, j'ai pu aussi mesurer combien tout cet apport allait être bénéfique dans ma pratique et dans mon métier d'enseignante. Parce que je me suis retrouvée à 29 ans en zone prioritaire face à 25 ethnies.
C'est ça, une zone prioritaire?
C'est une zone prioritaire, oui, très, très cosmopolite,
oui.
Où il était question avant tout de se respecter, de se reconnaître, et c'est bien par les arts que ça s'est passé ainsi, pour la bonne raison qu'un enfant qui arrivait, par exemple, d'Erivan, qui ne parlait absolument pas le français, s'asseyait et chantait avec nous.
Oui.
Et c'était la première démarche, et c'est ce qui m'a permis d'apprivoiser tous ces enfants et même les parents qui m'ont dit à un certain moment, tu nous reconnais et nous on te reconnaît. Et là, 30 ans sur un même lieu, à construire des relations aussi belles, je pense qu'un jour j'écrirai aussi cette histoire-là.
C'est vraiment un lien commun que vous avez tissé entre tous ces gens, tellement différents.
C'est ça. Et c'est vraiment par là, c'est par ces moyens-là, ces pratiques artistiques qui ont été des tremplins pour pouvoir permettre que ces enfants s'approprient après tous les codes dont ils avaient besoin pour aller vers le savoir et la connaissance. Donc, par exemple, à un certain moment, j'ai un inspecteur qui m'a dit « Mais Madame Rosary, si vous voulez monter un projet musique, vous aurez l'argent nécessaire du ministère de la Culture. » Et j'ai eu pour 3 années, mais la condition, le contrat, c'était de faire de la musique aux enfants de la maternelle, primaire, collège et lycée. Et nous avons créé pour la première fois une classe musicale transplantée. Ça n'avait jamais existé.
Transplantée, ça veut dire
c'est une classe qui va être hors des murs habituels de l'école.
D'accord.
Ça s'est passé dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit, où vivait d'ailleurs très souvent Ivry Gutis. Mmh. Et nous avons, pendant 15 jours... fait pratiquer et rencontrer aux enfants des musiciens très très différents, le jazz, la musique baroque, toutes sortes de musiques. Donc le matin, les musiciens venaient manger avec les enfants. L'après-midi, il y avait des ateliers ouverts où il y avait la pratique musicale. Et le soir, il y avait concert où les enfants savaient respecter le moment du concert et le silence qui allait avec.
Je vous écoute et je sens l'accent d'une enseignante. Voilà. Alors, vous m'avez dit qu'il y a deux maîtres mots, hein, deux maîtres mots qui sont transmettre et créer. Alors, parlez-moi de transmettre d'abord. Vous cherchez votre document ?
Alors, pour moi, effectivement, la première des choses, et ça sera tout au long de ma vie, c'est bien la transmission. Alors, dans un premier temps, eh bien, c'est l'Éducation nationale qui m'en a donné l'opportunité. J'ai été d'ailleurs chargée de mission par l'Éducation nationale pour monter de multiples projets et des projets innovants. Mais il y avait toujours au centre l'enfant. L'enfant qui devait développer sa sensibilité, son imaginaire, sa capacité à comprendre, à s'exprimer. Souvent celui qui ne parlait pas ou celui qui n'osait pas parler. Et celui qui arrivait d'ailleurs. Donc, c'était très important pour moi, cette manière de transmettre. Ensuite, J'ai été formateur à UFM et là, j'ai pu aussi transmettre ma passion de ce métier en formant de futurs enseignants, ce que j'ai fait aussi en étant retraitée de l'éducation nationale, puisque pendant 11 ans, j'ai continué à le faire dans le cadre d'un institut privé qui s'appelle FortProf.
Alors disons ce que c'est FortProf. Alors, c'est la préparation au concours
des futurs enseignants. Voilà. Et là, j'ai été chargée de cours pour toute la deuxième partie. À savoir donc l'art visuel, la littérature de jeunesse qui est un puits extraordinaire de création, ensuite la musique et la connaissance du système éducatif évidemment pour pouvoir accéder à ce métier. Alors ce qui m'a énormément apporté, c'est tout le travail que j'ai pu entamer avec des chercheurs. Je suis rentrée complètement dans la psychopédagogie et la métacognition en étant formée sur des programmes dont étaient porteurs Reven Furstein, Carl Ewood, Piaget, Vygotsky et bien entendu Jean-Louis Paour qui était sur Aix-Marseille et qui m'a donné l'opportunité de me former pendant des stages. Et j'ai pu rencontrer Ewood et puis Furstein, oui, aussi, à l'occasion d'un colloque qui s'est déroulé à Turin, où là, évidemment, j'étais un peu petite par rapport à lui, et je suis passée seulement comment appelle-t-on ça en artiste américaine, ou enfin, peu importe, quoi, voilà. Je faisais l'ouverture. Je faisais l'ouverture de ce programme, mais en tout état de cause, c'est une rencontre qui m'a énormément marquée. Alors, ces programmes sont sous-tendus par une idéologie très, très forte, à savoir que l'enfant, l'adulte, l'adolescent qu'on a en face de soi est forcément quelqu'un qui a du potentiel. Et nous, la relation qu'on a à tisser avec lui, c'est une relation de révélateur seulement. Et à ce moment-là, on est gagnant-gagnant. Parce que on a chacun quelque chose à se s'offrir.
Et quand vous me parlez donc de cet enseignement que vous avez prodigué, etc., moi je pense à tout ce que j'ai lu dans votre livre et où vous transmettez des choses. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et on va en parler, bien sûr, tout au long de cette émission. On se fait une petite pause musicale.
Thank you.
Un petit mot sur cette musique que nous venons d'entendre et que vous avez choisie.
Alors, cette musique est tout à fait dans le droit fil hein, de la transmission, puisque ce sont des pères jésuites qui, en fait, ont créé des missions et qui ont fait en sorte d'apprivoiser les populations autochtones grâce à la musique et grâce à une création d'écoles de musique. Pour des besoins liturgiques, certes, mais avant tout pour créer la relation et la construire jusqu'au bout, tant et si bien que lorsqu'on leur a donné l'ordre de fermer ces missions, ils ont donné leur vie. Ils sont allés jusqu'à une transmission jusqu'au bout, puisqu'ils ont donné leur vie pour pouvoir sauver ces missions-là et sauver surtout leur manière de penser, leur manière de vivre.
Alors là, on a parlé de la transmission. Il y a un deuxième volet dans votre parcours qui compte énormément, c'est la création. Alors, j'ai bien sûr lu votre livre et je vous invite à lire la page 10 et 11 où vous parlez justement de la création d'une manière extraordinaire.
Alors, la création sur la page ou la toile blanche ? Créer aujourd'hui pour moi, c'est oser. Oser se surprendre, laisser aller ses instincts, se mettre à nu. Oser le délire, jusqu'au vertige affleurant sans cesse les bords d'un gouffre jusque-là insoupçonné. Oser mettre les pas dans tout ce qui peut révéler la conscience collective de la création jusqu'à effleurer et entrevoir l'absolu, l'infini. Se lever dans les empreintes de ceux qui nous ont précédés au détour d'un tracé, d'une forme, qui dans l'inspire-expire peut permettre d'entrer dans la respiration de l'univers, révélée par les nombres et la géométrie sacrée. Pénétrer dans les vibrations d'espaces colorés pour en capter les forces énergétiques. Entrer au contact de la matière vivante terre, sensorielle, devenant très vite sensuelle, ouvrant pour un temps les portes de la genèse par la médiation d'un substrat où sont enfouis les germes d'une création fécondée. S'inscrire dans le souffle spiralé de l'univers cosmogonique, capable de révéler des parenthèses de transcendance, oser s'exposer au regard de l'autre et accueillir des instants de complicité où deux ne font plus qu'un, parce que chacun aura su accueillir l'autre. Oser un cheminement rempli de doutes, de questionnements, où se croisent et s'enchevêtrent des moments de fusion, des fusions que je ne maîtrise pas. Plaisir de la découverte, de l'exploration suivie d'une invite, d'un lâcher-prise synonyme d'aventure au plus profond d'un soi inexploré. Oser se révéler, se réveiller hors des chemins balisés, formatés, et jouir de quelques parenthèses où l'indicible règne en maître et où il m'est possible de crier comme Léo Ferré, ni Dieu, ni maître. Symphonie qui s'écrit en accord, désaccord, discordance ou harmonie dans cet acte de recréation. Tout en fait pour moi est commencement dans l'espoir d'atteindre la musique des sphères ou plus modestement, en capter quelques harmoniques.
C'est superbe, c'est vraiment superbe. Alors, vous m'avez dit, Henriette, qu'il y avait eu un déclencheur pour la création. En quelques mots.
Alors, en quelques mots, je dirais qu'il a fallu, comme très souvent, qu'il y ait un déclencheur, un symptôme, quelque chose qui, à un certain moment, fasse qu'on s'arrête de fonctionner pour essayer de se comprendre et de se capter. Mmh. Et cet élément, ça a été un jour que je faisais un championnat de France de tir à Deauville.
Parce que vous êtes championne de France.
Parce que je suis championne de France voilà. De tir. J'ai eu le déclenchement d'un acouphène. Un acouphène, à savoir donc un problème d'oreille interne. Et il y a très justement une psychologue qui pratiquait la PNL, qui m'a dit, mais madame, c'est une manière, c'est un peu comme dans une radio lorsque vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Et là, quelque part, j'ai été dans l'obligation de me poser des questions. Et à la faveur d'un travail avec une psychogénéalogiste, à travers des ateliers d'écriture, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité d'avoir une écriture autre que une écriture très stratégique pour aboutir à mes fins. Très souvent, hein, j'utilisais les mots pour pouvoir provoquer des déclenchements de subventions plutôt que de parler de poésie. En ce qui concerne la peinture, eh bien, c'est le travail de professeurs d'art visuel chez Fort Prof. À un certain moment, je me suis dit, mais tu parles de création, tu essaies de comprendre les déclencheurs dans les biographies des artistes. Qu'est-ce que c'est qui, à un certain moment, a pu déclencher ce tableau ou cette œuvre? Et quelque part, je me suis dit, mais pourquoi pas toi? Et je me suis mis à peindre et à écrire.
Alors vous dites, quand vous parlez de votre démarche, votre conception, ma conception de la démarche de création est entre raison et déraison. Un petit commentaire là-dessus?
Alors, un petit commentaire très très important, pour la bonne raison que j'ai été pendant une très grande période, avant tout très cartésienne. Et donc, je n'aurais même pas supporté de ne pas pouvoir maîtriser la situation. Il fallait toujours que je mette la barre très haut et que je maîtrise à fond la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'avais mis en place d'ailleurs des stratégies assez intéressantes là-dessus. Mais le problème, c'est que je m'étais forgé aussi une carapace qui évitait l'émotion. Et là, à partir du moment où j'ai admis de lâcher prise, je me suis rendu compte qu'il était intéressant pour moi de laisser aller ce qui pouvait être au fond de moi et qui pouvait être du délire et de la déraison pour capter ce qui pouvait être en fait l'essence même de la création.
Je crois que vous avez un petit texte à nous lire.
Alors, j'ai un texte qui va traduire quelque part ma manière d'investir la toile et qui s'appelle « Tracé ». Sur la toile, dans la matière, inlassablement, l'outil guidé par la main trace. Diagonale de séparation, horizontalité, verticalité, sans limite, arc de lumière, sphère, soudain font alliance, forme définie, trajectoire se met en projection de réalisation. À l'infini, elle se décline en quête d'équilibre et d'harmonie. Ainsi, la beauté surgit. À chaque tracé, l'homme sait en apprivoiser les lois, sublimation d'un imaginaire fécond, capable d'atteindre la transcendance.
Il y en a un autre peut-être?
Fantasme.
Fantasme.
Inconscient libéré, région jugulée, un monde fantasmagorique se donne à voir, méandre d'une folie créatrice, imaginaire, imaginal, émergence d'un moi profond, richesse de ses ombres apprivoisées, et au-delà du miroir, lorsque le masque tombe, pouvoir dire « je », le « je » de la vraie naissance.
Regard. Encore un autre, regard.
Alors, ce texte va être la traduction de ma manière d'aller à la quête du regard de l'autre. Chaque fois que j'expose, je m'expose. Je vais vers l'autre. Et voici ce que j'ai à vous dire tous, ceux qui sont capables de regarder mes tableaux et ceux qui sont capables de lire mes textes. regard. Tu regardes et pourtant tu ne vois rien. Tu écoutes et pourtant tu n'entends pas. Mais où es-tu donc ? Ton regard s'est égaré dans les méandres d'un moi dont tu cherches inlassablement le sens, au tréfonds des zones d'ombre de ta solitude. Et soudain, ton regard se pose, bâtit, construit, recrée une vision, un monde fantasmagorique, fruit de ton imaginaire, cheminement vers l'harmonie et la beauté. Là est ta liberté, cette liberté de créer à partir d'une projection que je t'ai offerte. En cet instant, elle est devenue tienne. Nous, voici dans le partage, toi et moi, toi le passant et moi l'artiste. En cet instant, nous sommes devenus passeurs de vie dans la réalisation d'une parcelle d'humanité.
Écoutez Satie, et je vous rappelle qu'on est toujours avec Henriette Rosary. Nous parlons de son livre. Alors, vous avez bien sûr choisi aussi cet intermède musical de Satie. Pourquoi ?
Alors, Satie fait partie des trois compositeurs préférés hein, que j'ai pu jouer au piano. Ce sont trois compositeurs qui sont eux aussi dans la finesse, dans l'émotion, hein. Et à la faveur de cette, on découvre toujours quelque chose. Et à la faveur de ce choix de pause musicale, j'ai recherché le sens de gymnopédie et je me suis rendu compte que ça allait coller totalement au contenu de mon livre, puisqu'il est question de danse rituelle qui était proposée lorsqu'il y avait le passage entre l'enfance et l'adolescence, toujours dans le principe de se connaître et se construire. Donc là, je pense que ça va faire un lien tout à fait avec le contenu de mon ouvrage.
Alors justement, puisqu'on parle de votre livre, comment vous est venu le besoin d'écrire ce livre et comment cela s'est-il fait ?
Alors, je pratiquais depuis un certain temps, donc ça fait à peu près une dizaine d'années, j'avais décidé d'exposer. Chaque fois que j'exposais mes tableaux, je laissais aux visiteurs le temps nécessaire pour s'imprégner des tableaux. Ensuite, je me présentais en tant qu'artiste et je proposais de refaire un tour en leur proposant de leur donner quelques clés, soit techniques, soit de les faire rentrer en complicité avec ce que j'avais pu ressentir lorsque j'avais créé ce tableau. Et durant tout ce temps, j'étais quand même très présente lors de ces expositions, ce qui n'était pas inintéressant et qui m'a permis de faire d'agréables et des rencontres très constructives en termes de relations humaines. Il y a quelque temps, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité d'avoir une écriture assez poétique et je me suis mis à écrire des textes qui sont rentrés très rapidement en vibration avec mes tableaux. Soit mes tableaux étaient porteurs l'écriture venait après, soit l'écriture venait avant et le tableau arrivait. Donc il y avait une véritable résonance. Et à la faveur de ce travail, j'ai fait pendant 3 ans des expositions où j'ai offert au regard ces tableaux et aux lecteurs donc ces textes. Et je me suis rendu compte que je pouvais, moi, pendant cette exposition, m'estomper davantage et que, par contre, c'était le visiteur qui allait de plus en plus, avec beaucoup plus d'attention, vers à la fois vers l'écriture et vers les tableaux. Les tableaux qui partaient, les acquéreurs me demandaient les textes. Et l'idée a émergé donc d'un recueil de ces textes et de ces tableaux. C'est vraiment les spectateurs, les visiteurs qui m'ont proposé de faire un recueil. Et ensuite, bien entendu, il y a un chantier qui s'est mis en place et l'ouvrage est né. Et voici un mois et le lancement a été fait sans aucun problème puisqu'il y avait une attente et un besoin réel exprimé.
Alors, parlez-nous un petit peu de vos choix, votre technique sur la peinture. On ne peut pas voir, bien sûr, les tableaux puisqu'on est à la radio, mais parlez-nous un peu de la technique et de vos choix.
Alors, en termes de création, je dois dire que je travaille énormément en me laissant porter. C'est la toile, en fait, qui devient très vite maître de moi-même. Je rentre en complicité pendant des jours et des jours avec cette toile qui se construit et qui s'élabore. Et tout ce qui se passe sur la toile, d'ailleurs, il y en a constamment dans mon atelier en gestation. Et il y a une jour après jour, en fait, la toile va m'offrir certaines formes, certaines couleurs que je vais accentuer, que je vais récupérer pour pouvoir accentuer les messages qui vont au fur et à mesure se construire. Pour les textes, bien c'est aussi la projection sur la feuille de mots qui vont s'organiser et qui vont sans aucune peine, je dois dire, se transformer en véritable partition musicale. Et là aussi, je dois dire qu'il y a il y a une espèce de réciprocité, de complicité. Je crois qu'il est difficile, en fait, de mettre des mots, difficile de traduire cette jouissance, cette jubilation qu'il peut y avoir à créer, aussi bien avec la peinture, aussi bien avec les tracés qu'avec les mots.
Et alors, comment est articulé votre livre ?
Alors, je dois dire que dans un premier temps, la première des choses, c'est que je souhaite que ce livre soit pris sans ordre, comme tout livre d'art. Et j'ai envie que la personne puisse l'ouvrir à n'importe quelle page et s'en ressourcer aussi bien au niveau des textes que de la peinture. Pour autant, il faut bien quand même que je dévoile le fil conducteur de ce livre, à savoir que dans un premier temps, il va y avoir des textes et des tableaux qui vont faire référence à l'introspection, l'intériorisation, de manière à ce que tout individu puisse se construire, se mettre à nu, véritablement oser se mettre à nu pour pouvoir se construire sans artifice. Peut-être pourrais-je, à ce niveau-là, vous donner quelques textes.
À l'audio.
Oser. Spirale d'un souffle déferlant, le doute a laissé la place à une profusion boulimique d'images, profondeurs abyssales d'une pulsion de vie qui ne demande qu'à prendre forme. La transgression vient bousculer la raison. Il est temps d'oser. Oser être soi. Laisser émerger enfin une parcelle de cet inconscient collectif creusé de la part d'humanité qui est levée en chacun de vous.
Un autre ?
En toi.
En toi.
Entre alpha et oméga, entre éphémère et éternité, entre horizontalité et verticalité, entre équerre et compas, silence, la parole se construit. La pensée se libère. Entre espace terrestre et espace céleste, l'art du trait décline ses variables. Ne cherche pas très loin. Une part de l'art royal est en toi.
Un dernier ? On s'arrête là ? Non ? Un dernier ?
Empreinte.
Empreinte.
Parce que la terre aura su féconder en toi cet être porteur d'espoir, parce que le feu de la forge aura fait renaître l'essence de ton être profond, parce que les eaux primordiales auront fait œuvre de purification, parce qu'un souffle divin aura su t'envelopper d'une spire ascensionnelle, chaque pierre du chemin se souviendra. Chaque empreinte de tes pas retiendra le passage des ailes de ton désir. Désir d'être et d'exister en quête d'absolu et d'éternité.
Magnifique. Bien, alors, on a parlé de votre livre, de la façon dont vous l'avez fait, etc., etc. Et alors, moi, je voudrais vous poser une question. Quel est, selon vous, le rôle de l'artiste ?
Alors, selon moi, l'artiste a un rôle très important dans la société. Il faut absolument que l'artiste, l'art, la culture existe parce que c'est les rouages indispensables de la civilisation. Sans l'artiste, sans la culture, sans les arts, la civilisation se meurt. Et on sait très bien que les États totalitaristes et tous ceux qui voudront saboter une civilisation, c'est par là que ça va commencer.
La déchéance.
Alors, je pense que l'artiste a besoin d'être de tous les combats. À sa manière, certes, avec les mots, avec sa peinture, avec sa musique, avec toutes les formes d'expression, de langage, il va être obligé de s'engager. Il s'engage de toutes les façons, il va s'engager parce qu'il est dans l'élan vital nécessaire à toute vie humaine. En tant qu'artiste, il doit donner aussi la possibilité de d'ouvrir à l'espoir. Pas seulement dénoncer ce qui peut exister en termes de dysfonctionnement, pas seulement rentrer dans des combats, mais aussi aider à construire, aider à reconstruire. Parce que sans ça, ça ne suffit pas. On est encore dans de la déconstruction, et là, il a aussi un rôle à jouer dans la reconstruction, dans la recréation. Je voudrais, à ce sujet, vous parler d'une expérience que j'ai pu faire en tant qu'artiste concernant un combat, justement, contre la maltraitance faite aux femmes. Et je vous lirai simplement un texte pour aller tout de suite vers l'essentiel. Femmes, au-delà de toute violence, au-delà de toutes les maltraitances, au-delà de toutes les formes d'oppression, tu es liberté, parce que ton lait maternel aura su tarir nos larmes de sel, parce que tes eaux matricielles nous auront offert de merveilleux enfantements. Femme, tu es la vie, plus forte que la mort. Femme, tu es la vie, parce que tu es mère. Je dirais que là se situe véritablement le combat à mener, au moins un des combats. Et en termes d'espoir, je dirais qu'il faut absolument amener vers les chemins de la fraternité.
Vous avez peut-être un texte à ce sujet ?
Il y a un texte.
Alors on y va.
Un même élan, une même voix, union sacrée et Grigore dans la pulsation cosmogonique d'un cœur à cœur, différence de coloration de timbre savamment orchestrée, source, engendrement de la vraie richesse, celle qui éveille en nous notre part d'humanité. Je suis, tu es, nous sommes, ne faisons qu'un, indivisible, mais forcément différent. Sachons nous unir en fraternité, en tissant les fils de l'espoir.
Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, hein, quelques minutes seulement, et je voudrais, il y aurait tellement de choses à dire encore. Mais alors, Henriette, quels sont, selon vous, les concepts, les clés pour lesquelles on doit se battre ? Bien sûr, il y en a beaucoup, mais les principaux ?
Je dirais que la chose essentielle, c'est que chaque individu ait sa place, sa vraie place. Et à partir de là, il n'y aura plus de frustration. Il n'y aura plus véritablement de relation dominant-dominée.
Mais ça, c'est pas une notion de respect de l'autre ?
Oui, absolument.
Bien, on fait une petite pause musicale. toujours avec Henriette Rosary pour son livre. Et je pense que vous avez tous reconnu ce cœur des esclaves. Pourquoi ce cœur des esclaves ?
Alors, ça fait partie des combats et de plus jamais ça, dirons-nous, et ce devoir de mémoire que nous avons et qui va être traduit aussi bien par les textes que par tous les artistes. Hein, tous les artistes sont là pour parler de devoir de mémoire. Plus jamais ça, et surtout construire tout ce qui peut être possible pour que chacun soit libre.
Alors, vous avez un dernier texte à nous dire.
À la croisée des chemins entre Gaïa et Déméter. Chemin de vie où s'organise le monde de Déméter, issu des entrailles de Gaïa. Chemin de vie, méandre qui se love au plus profond de la materia prima, cette terre féconde où chaque graine semée pourra donner naissance. Chemin de vie où se jouent les forces toniennes capables d'engendrer un monde nouveau. Inconscient primitif où se forge notre moi. À la croisée de tous ces chemins, écoute ces voix. Elles célèbrent la vie, pleine d'espoir en l'humanité.
Merci Henriette. Alors, il y a beaucoup d'autres textes dans votre livre. Bien sûr, il y a des peintures à voir, etc. Si on veut acquérir votre livre, comment fait-on ?
Alors, tout simplement, prendre mes coordonnées, à savoir soit mon portable au 06 21 30 98 29, soit m'envoyer, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs des réactions sur cette émission, sur mon mail, qui est en minuscule hrosary@club-internet.fr. Et puis mon site, éventuellement, que vous pourrez visiter, et je pense que j'y mettrai aussi certainement l'ouvrage. Et là, vous aurez donc le site avec henriette-rosary@com, je crois.
Com. Alors, pour conclure cette émission, je voudrais juste en quelques mots, si on me les accorde, lire la quatrième de couverture. Une petite minute. Mélodie et magie des mots. Gamme chromatique des couleurs. Entrelacement des tracés d'une géométrie sacrée et d'une grammaire universelle. Voilà ce que je te propose de partager. Toi le passant et moi le passeur. Devenons ensemble les complices d'un monde où tout serait quête d'amour, d'espoir, de liberté et de beauté dans la recréation. Merci Henriette Rosary.
Merci Laurent de m'avoir invité.
C'était Judaïsme pluriel. Chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.